La recherche-action est un terme au contour flou qui désigne généralement une méthodologie alliant théorie et mise en pratique en vue de chercher à modifier la réalité tout en produisant des connaissances liées à ces transformations. Elle implique, dans le processus de construction de la recherche, autant les chercheuses et chercheurs que les actrices et acteurs participant à l'expérimentation. Il s'agit alors d'éprouver une situation plutôt que de l'observer, de faire de l'intervention la possibilité d'une compréhension. Si ce terme est habituellement désigné pour décrire le travail d'actrices et d'acteurs sociaux, il apparaît que la pratique de certaines et certains artistes s'y apparente. Le processus de création contribue à modifier et par là comprendre les situations dans lesquelles les artistes évoluent. Tous et toutes travaillent à la co-construction de savoir en agissant directement dans le réel avec les actrices et acteurs du terrain d'étude devenu champ d'action. J'ai souhaité m'entretenir avec des artistes qui se réclament de la recherche-action, définir ensemble ce que pourrait être la recherche-action en art et définir ce qui en relèverait dans le travail de chaque artiste. Marie Preston, artiste, chercheuse, enseignante à Paris 8. Elle présente son travail à Greylight Project à Bruxelles le samedi 1er juin 2019 lors d'un repas de recherche autour de la recherche-action et des pratiques artistiques affiliées qui fait lui-même partie d'un workshop plus large que j'organise alors avec Fructose à des ateliers d'artistes à Dunkerque.
Formation que je faisais en parallèle du doctorat que je menais à Paris. Donc je vous raconte ça pour vous dire depuis où je parle et également parce que cette question de la recherche, action, création fait partie de ma formation. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours accompagné mon travail artistique d'une dimension théorique, réflexive, par le biais de l'écriture et de rencontres. Donc ces pratiques coopératives dont je vous parle, peut-être serait utile de les définir. Je disais au départ collaborative, puis coopérative, puis maintenant de co-création. Donc d'abord ces pratiques supposent une indétermination initiale, c'est-à-dire qu'en commençant une expérience, on ne sait pas où elle va nous mener, puis on n'a pas une idée préconçue de ce qui va advenir, ce qui est une façon aussi difficile parfois de commencer parce que quand on s'engage à travailler avec des personnes qui ne se définissent pas comme artistes, qui sont a priori non-artistes, leur proposer de s'engager dans une expérience en leur disant on ne sait pas ce qui va se passer et vraiment ce qu'on va faire, c'est pas toujours évident d'établir une confiance on se travaille à plusieurs, donc une indétermination initiale, plusieurs façons de faire pour s'engager, un engagement dans la durée. Les expériences peuvent durer plusieurs années, contrairement à ce qui est souvent imposé aux pratiques participatives qui sont très soutenues d'un point de vue institutionnel, mais où on demande aux artistes de monter des projets qui durent au mieux 3 mois. Un autre élément est de présupposer que chacun, chacune peut apporter de manière égalitaire un élément constitutif au travail créatif. Cette égalité des intelligences est quelque chose qui est primordial. Que les modalités de travail à plusieurs, c'est-à-dire les manières dont on mène la recherche, l'expérience, sont pensées de manière réflexive et en interrogeant les normes sociales et institutionnelles qui s'imposent naturellement, en tout cas, qui imposent nos manières de faire si on ne prend pas garde. Que ces pratiques tentent d'œuvrer, justement par cette manière réflexive conduisant le travail et la mise en œuvre du travail, tente d'œuvrer à une transformation sociale qu'elle s'inscrive dans l'histoire de l'éducation populaire et que, très important, chacun doit y faire le travail de sa vulnérabilité et de sa prise en cause de nos interdépendances. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'arriver de manière conquérante, mais dire plutôt d'accepter que l'autre peut porter notre manière d'être et donc travailler à sa vulnérabilité. Et enfin, que, pour ma part en tout cas, ces pratiques ont une nature écosophique. C'est un terme que Félix Guattari a repensé dans les années 80, c'est-à-dire qui engage une réflexion écologique qui n'est pas simplement en lien avec la question de l'environnement, mais aussi une écologie sociale et mentale.
J'ai rêvé ces deux mots, pain noir, tatoué sur tes deux mains. Et de l'histoire, je ne connaissais que la fin. Quelle est la peur qui d'un seul coup m'étreint? J'ai rêvé ces deux mots, pain noir.
Donc le pain commun,
tatoué sur tes deux mains,
a commencé il y a un an et demi. Par la mise en forme d'un groupe d'une petite dizaine de personnes. Et donc là, comment commencer a été très important, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, des institutions culturelles, centres d'art, musées, nous proposaient de mener des projets coopératifs, de les accompagner, de les soutenir. Et donc, ces lieux avaient au préalable des partenariats. Ou par l'intermédiaire de ma sollicitation, créer des partenariats avec des centres sociaux. Et à partir de ce partenariat interinstitution, qui est très important pour elle, l'artiste et le groupe menaient un projet. Donc ça, c'était une chose, et puis en réfléchissant bien et en voyant comment ça se passait, dans le cadre des centres sociaux notamment, il est évident qu'une personne qui fréquente ce centre social et à qui une assistante sociale ou une psychologue propose de participer à un projet artistique, il y a une forme comme ça un peu d'injonction, même si on le fait certainement aussi parce que ça nous fait plaisir peut-être, mais aussi parce que ça fait plaisir à cette personne. Donc ça implique des choses dans les relations qui vont se mener. Ou alors il y avait une autre manière de commencer, c'était en tant qu'artiste, de manière autonome, s'adresser à un groupe, ce que on emploie beaucoup dans les milieux anglo-saxons, la question de la communauté, s'adresser à une communauté et aller auprès de cette communauté prêter ses services en fait en tant qu'artiste pour accompagner la cause défendue par cette communauté. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. Et puis je me suis dit que, à l'endroit où j'en étais dans ma pratique aujourd'hui, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était plutôt que des gens viennent de manière spontanée mener une expérience avec moi, puis du coup ensemble. Et donc la première chose a été de constituer un groupe par l'intermédiaire d'un flyer, une invitation, distribuée dans la ville de Saint-Denis par l'intermédiaire de, j'appelle ça des institutions alliés, ça peut être, enfin, là c'était la maison des parents, la maison des femmes, une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, un musée d'art et d'histoire, voilà, divers lieux comme ça qui sont bien intéressants. Voilà, le pain commun. Alors là, il y a un texte que je vais peut-être vous lire parce qu'en fait il n'est pas très lisible. Comme une brique ne résulte pas seulement de l'argile placée dans un moule, le pain n'est pas qu'une pâte façonnée par un boulanger. Sa qualité est issue d'une chaîne qui s'étend de la terre où les grains poussent au réseau de distribution des tourtes et des brioches. Mais après, comment agir ces pensées-gestes de la boulange qui favorisent toutes des formes de biodiversité environnementale, culturelle, sociale, subjective, animale? Comment le faire à Saint-Denis, la ville où les archéologues identifient des fours à sapes moyenâgeux une de ces villes de la plaine des vertus qui alimentait Paris de ses cultures maraîchères jusqu'au milieu du XXe siècle. En rassemblant des personnes volontaires, en prenant le temps que la pâte lève, en discutant de nos gestes, en boulangeant ensemble, en goûtant. Le pain commun se place du côté de l'art de l'enquête, tel que le définit l'anthropologue Tillingol, pour qui le praticien cherche à laisser la connaissance croître à la faveur d'une observation et d'un engagement pratique auprès des êtres et des choses qui l'entourent. Laisser croître la connaissance par les formes et rencontres auxquelles nous tenons part. Alors, ce que je ne dis pas, en fait, c'est que avant d'envoyer ce flyer à tout le monde, on a quand même tenté, et c'est là qu'il y a eu un mouvement en fait, qui a fait qu'on a d'abord commencé puis recommencé. On a d'abord tenté, avec le centre d'art qui m'avait invité à mener ce projet, qui s'appelle Synesthésie, qui est installé à Saint-Denis. On avait tenté de s'adresser à un lieu simplement qui était la maison des parents, qui accueille en fait des moments de convivialité pour les femmes en mettant en place un système de garde en même temps pour leurs enfants, ce qui leur permet d'avoir de dégager du temps pour avoir des activités qui, voilà, personnelles. Et donc on avait d'abord commencé comme ça, puis ça avait bien pris, et en fait il se trouve que par la force des choses, ces personnes qui sont souvent en recherche d'emploi, enfin celles que j'avais rencontrées, trouvent un emploi, puis ils ne participent plus au projet évidemment parce qu'elles travaillent. Donc les personnes qui étaient au départ engagées se sont désengagées. Donc il a fallu recommencer. Et c'est là que cette idée, rien de révolutionnaire, mais c'est juste un pas pour dans ma pratique, cette idée de chercher des personnes comme ça de manière spontanée et dans la ville, c'est révélé beaucoup plus fructueux et intéressant. Le premier pain que nous avons fait, c'était un pain du siège de Paris, Acadabra au fécule, qui est un pain qui était le pain que mangeaient les Parisiens pendant le siège de Paris, puis la commune, qui est réalisé avec un mélange de farine, de fécule, de diverses choses, pommes de terre, riz, lentilles, pois cassés, avoine, seigle, moulu, de la paille, de l'eau, enfin tout ce qu'on pouvait mettre dedans qui en faisait une pâte mangeable. Un certain nombre de Parisiens ont gardé ensuite comme souvenir de cette période difficile, parce qu'effectivement il était très mauvais. Et donc au musée d'histoire de la ville de Saint-Denis, qui possède un fonds spécifique sur la commune de Paris, sont conservés des morceaux de ce pain. Et la recette avait été publiée dans l'illustration à la fin du 19e siècle. Donc la première chose qu'on a fait, c'était faire ce pain, qui ne ressemble pas à grand chose. Et puis lancer l'appel dont je vous parlais, le pain commun, un atelier autour du pain. Et ensuite, ce sont les flyers qui ont été distribués régulièrement jusqu'à constituer un groupe de travail. Donc compte le temps de la résidence qui a duré un an, puis qui se poursuit maintenant, le projet se poursuit hors résidence. Le premier atelier avec les personnes volontaires, c'est fabriqué autour d'une table. Sous un plastique, il y avait des documents qui parlaient de ce pain conservé, de cette recette, des fours à sape, la main. Et chaque atelier se constituait autour d'un partage de recettes autour du pain. Et puis, en deux temps, donc partage de recettes, puis exploration de ce que ce serait que cette écologie du pain. Donc, il y a eu diverses rencontres qui se sont passées. L'idée, c'était que le groupe se constitue un savoir commun et que je n'avais pas non plus. Donc, je m'associe complètement à cette démarche d'auto-formation autour du pain. Donc on a rencontré un certain nombre de personnes. On a rencontré une personne qui s'appelle Maxime Bichon, qui a une boulangerie dans le 20e qui s'appelle Le Brichon, Maxime Bussy, pardon, Le Brichon, qui est une boulangerie qui fait du pain qu'avec des semences anciennes cultivées par des paysans boulangers ou des paysans qui cultivent ces semences anciennes, qu'ils retrouvent et réadaptent en fonction de leur sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il y a une uniformisation des semences de blé qui toutes produisent le même type de farine, à laquelle est ensuite ajoutée des adjuvants qui permettent à la pâte de bien résister aux machines pour que le pain soit bien aéré, bien beau, bien blanc. Mais qu'avant la Seconde Guerre mondiale, chaque région française avait un blé spécifique, comme c'est le cas toujours par exemple pour la viticulture. Donc c'est des paysans qui cherchent à retrouver le blé qui pousse correctement dans leur sol, qui résiste aux intempéries, tout ça sans modification génétique. Donc il nous expliquait ça, puis c'est aussi quelqu'un qui a une boulangerie par exemple qui n'ouvre pas le matin à 7h, qui pense aussi ses conditions de travail à lui, qui se dit « je n'ai pas à être esclave du temps de travail des autres, donc je vais travailler la journée comme tout le monde, et puis ma boulangerie ouvrira à 17h, et puis donc les gens viennent acheter leur pain à 17h, et puis mangent le matin le pain de la veille. » Et c'est voilà. Et puis donc, dans sa, en fait, c'est comme un atelier boulangerie-boutique, c'est son lieu de travail, c'est un meuble et puis ça devient un comptoir où il pose ses pains. Il y a quelques livres comme ça qui nous informent sur ce qu'il vit et comment il se... à quoi il aspire finalement. Et donc ce livre, « Quel pain voulons-nous ?» de Marie Astier est passionnant sur la question de... elle indique très clairement, c'est une journaliste qui a fait une enquête d'investigation auprès de plusieurs boulangers et minoteries, pour savoir pourquoi on mange, pourquoi on nous vend ce pain blanc et pourquoi les normes du ministère de l'Agriculture continuent de soutenir ce pain-là et cette farine. Nous sommes allés visiter des fermes, notamment celle de Sainte-Beuve qui est installée en biodynamie, où les luzernes sont mélangées au blé. Nous sommes allés visiter des fermes avec des boulangers qui accompagnent des recherches de l'INRA sur la nature des levains et les spécificités des blés anciens, comme je vous disais tout à l'heure. Nous avons tenté de mettre au mur des pains en se demandant ce que ça voulait dire de ne pas les manger et de les accrocher, de les montrer, de les exposer, du coup de les faire durcir. Et puis de les conserver aussi, puisque en fait ils n'ont pas été on n'avait pas anticipé, donc ils ont pourri. Puis nous sommes partis à Marseille, et là c'est un moment très important de cohésion du groupe, de travail en commun, parce qu'on est parti en voyage, parce qu'on est passé, du temps ensemble, hors des temps aménagés par les ateliers. Et ce voyage avait pour but d'aller consulter les archives, d'aller visiter les réserves du MUCEM, musée qui conserve les objets d'art populaire du bassin méditerranéen et d'Europe, mais également, Et donc il y a beaucoup de pains conservés. Une anthropologue avait étudié ces pains figuratifs et sa collection a été achetée par le MUCEM. Et donc c'est très passionnant de voir comment ces pains sont conservés, étaient faits et les formes qu'ils déploient. On a dessiné. Et c'est comme tout ça n'est pas fini, n'est pas mis en forme, je vous montre des documents en fait. Hein. Mais c'est, pour moi, ça participe presque de la recherche, quoi, action, création, qu'on veut. En fait, plutôt action ici. De vous faire part de ça et puis ensuite de pouvoir échanger. Souvent dans les projets d'art participatif, il y a l'idée de faire ces ateliers, mais là il y avait aussi l'idée d'imaginer comment on pouvait continuer ensemble, quelles étaient nos dynamiques, qu'est-ce qui nous intéressait en particulier, parce que beaucoup de choses se déployaient, il y avait beaucoup d'axes, donc essayer de réfléchir ensemble à là où on voulait continuer d'aller. Il y a une dimension autogestionnaire du projet lui-même, qui essaye de se construire. Et puis, suite à la visite au MUCEM, on a commencé à faire des pains figuratifs, intéressés par ce qu'on avait vu. Et donc, notamment ces DS à plusieurs têtes et cinq multiples, qui seraient une façon de nous représenter, c'est-à-dire de penser le collectif en termes non pas d'un nous, mais de plusieurs jeux. Plusieurs têtes réunies ensemble, plusieurs singularités, Et les seins multiples, c'est une référence à ce peintre, Gina, qui est en fait une légende, qui a été faite par un boulanger, qui est une légende italienne, où une nourrice s'occupait particulièrement bien des enfants. Donc quand tout le monde était convoqué pour aller s'occuper des blés, dont les femmes, elles laissaient leurs enfants à cette nourrice, qui gardait particulièrement bien les enfants aussi, parce qu'elle avait trois seins. Et en réalité, il s'est révélé que son troisième sein était un faux sein dans lequel elle m'avait mis un petit bidon d'alcool. On a souhaité continuer, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire que dans ces projets, on se dit que quand le projet... Il faut savoir le moment où le projet finit. Et donc c'est toujours compliqué de savoir quand le projet finit. Et en général, parfois il finit quand le financement finit. Quoi. Donc on s'est dit que c'était pas forcément une bonne raison pour finir, pas suffisante, parce qu'on avait très envie de continuer, puis ça faisait qu'un an. Donc on s'est dit on va essayer de continuer seul. Et on s'est rapproché d'un lieu à Saint-Denis qui s'appelle le 110, qui est un centre social et culturel coopératif qui a vu le jour il y a un an. Et là où on poursuit maintenant nos ateliers sur place en montrant les ateliers aux coopérateurs du centre social et coopératrices. Et puis nous avons déposé un projet pour le budget citoyen de la ville de Saint-Denis, qui est la mairie dédie un financement à une certaine enveloppe à des projets que les citoyens montraient et pour lesquels ensuite ces mêmes citoyens voteraient. Et selon ceux qui arrivent en tête, eh ben, ils sont financés. Donc on a proposé un projet qui s'appelle le four commun, qui consiste à installer un four à pain dans l'espace public. En réalité, c'est plutôt semi-public, parce qu'en fait, c'est dans le jardin de ce centre social coopératif. Mais centre social qui, lui, est ouvert à ceux qui ont envie d'y aller. Quoi. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas comme un lieu privé où il faut vraiment une trépas blanche en entrant. Et donc, l'idée, ce serait de construire un four ensemble en terre paille, torchis, terre sable, dans ce lieu, puis que ce soit là où nous puissions cuire les pains que nous réalisons, mais où tout un chacun pourrait aussi cuire son pain. Et puis, pour finir, en fait, la dernière séance qu'on a faite, c'était un atelier de pétrissage et de lecture à partir de textes qui ont été réunis par Émilie H. dans un recueil qui s'appelle Reclaim, qui est un recueil de textes traduits écoféministes. Et donc on a lu en faisant ces femmes Redzel.
Voilà pour ça une des tâches entreprises par le féminisme et la refonte délibérée de la politique du point de vue des femmes. Et ici, la politique a plus en commun avec l'art qu'avec la science. C'est pourquoi un aspect important de ce mouvement est son opposition à la bureaucratie, à la gesticulation politique pontificale, à la rigidité et au manque d'imagination du monde des hommes en cravate et en uniforme.
En gros, l'écoféminisme, c'est l'idée que que la domination patriarcale s'est constituée simultanément et en soutien de la domination des hommes sur la nature, et que du coup il y a une sorte d'alliance entre nature et femme qui s'inscrit à cet endroit-là. Donc je vous l'ai dit au début, la formation universitaire m'engage à penser ma pratique. pratique artistique comme recherche, donc associée à une recherche en écriture théorique, mais aussi à l'enseignement, et que cette recherche prend la forme du tâtonnement expérimental, qui est une expression employée par le pédagogue Célestin Freinet, qui pense que l'on apprend en tâtonnant, et que ce tâtonnement nous conduit à des résultats ou des échecs, et que c'est ainsi qu'on peut poursuivre. J'envisage cette pratique comme une activité critique, et notamment quant au lien entre les relations entre art et institution, c'est-à-dire comment faire à la fois avec ou sans ou de manière réflexive. Et pour travailler à ça, je mène une sorte de recherche en parallèle, une enquête parallèle historique sur la pédagogie, et en particulier sur des écoles qui sont nées entre les années 70 et 80 en France, qui s'appellent les écoles ouvertes, qui sont des écoles qui étaient des écoles à air ouvert déjà, qui réfléchissaient à l'architecture de l'école elle-même, mais également qui étaient des écoles engagées dans des recherches-actions, incluant les membres, tous les membres de l'équipe pédagogique, et des chercheurs de l'INRP, l'Institut National de Recherche Pédagogique, qui visaient à essayer de trouver des méthodes pour remédier à l'échec scolaire. Et donc, il me semble que... Et donc, ces pédagogues-là étaient des gens qui s'inspiraient des pédagogies de Célestin Freinet, mais aussi des pédagogies institutionnelles qui considèrent à penser que ce qui se passe dans la classe est aussi... qui est aussi contraint par des normes institutionnelles, et qu'il faut penser au-delà de la classe, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir, enfin que des jeunes citoyens du futur vont pouvoir se former à l'exercice démocratique. Et donc ça rejoint ce que Brian Holmes définissait dans les années 80 par ce qu'il appelait l'extradisciplinarité, c'est-à-dire comment il y a un aller-retour entre art et autres pratiques qui permet de nourrir en va-et-vient nos pratiques conjointes. Et donc là, pour ce projet de point commun et en général, c'est plutôt vers les recherches en pédagogie que j'oriente mon regard, alors qu'auparavant la discipline anthropologique était très présente. Et donc pour conclure, simplement, avant de vous adresser une question, s'il y avait des modalités de recherche-action en art, j'en ai pas parlé, mais la question du journal de travail est toujours très 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 importante. C'est normal, en fait, finalement, dans les recherches plutôt processuelles. Journal de travail, mais j'ai presque envie aujourd'hui d'essayer de co-écrire à plusieurs des journaux de travail. Donc ça, c'est assez compliqué, c'est quelque chose de très personnel, ce journal de travail. Ça implique aussi le travail du document. Voilà, le travail du document. Puis, finalement, je me demande si je ne tends pas vers une sorte de recherche-action coopérative qui est autre chose qu'une pratique artistique coopérative. Et donc, je reprendrais bien le titre que Fernand Moury, donc un des pères de la pédagogie institutionnelle, avait donné à un de ses ouvrages fondamentaux pour qu'on puisse comprendre cette pédagogie qui s'appelle « Vers la pédagogie institutionnelle », c'est quelque chose vers lequel on tend. Vers une recherche action coopérative, qu'est-ce que ce serait, comment on ferait? Il me semble que là, il nous manque quelque chose, c'est des groupes de travail d'artistes entre eux qui se posent ces questions et qui coopèrent à essayer de nourrir à plusieurs leurs recherches, parce qu'on est vraiment tout le temps engagé